Ça y est, le podcast a un an. Le 2 décembre 2022, je publiais la bande-annonce du podcast, puis mon tout premier épisode. Je tenais à sortir un épisode anniversaire pour faire le bilan de ce projet avant de démarrer la deuxième saison du podcast, dès janvier 2024. Il s'est passé beaucoup de choses en un an. Ce podcast continue pour moi d'être un laboratoire créatif. J'ai, dans ma vie, je crois, besoin de combler le vide. Au cours de ces 10 dernières années, en plus de mon travail et de ma vie perso, j'ai libéré du temps pour m'investir dans des compagnies de théâtre, puis, après les avoir quittées, j'ai été dans un énorme projet de rénovation de ma maison. Au bout de quelques années où les travaux avaient beaucoup avancé, même s'il restait encore du travail évidemment, c'est moi qui a été à bout. J'avais besoin de ralentir, de faire autre chose, que ma vie ne soit plus centrée qu'autour de ce projet de rénovation, toutefois magnifique mais très prenant physiquement et moralement. J'ai donc ralenti et alors je me suis retrouvée avec du temps, seule. Que faire de ce temps? Je l'ai rempli, ce vide, avec ce podcast. Fabriquer des spectacles ou faire des travaux, il y a en commun l'idée de produire quelque chose, travailler, concrétiser, donner vie. Et j'avais besoin de retrouver un projet créatif. J'ai combiné le plaisir d'écrire avec le plaisir de donner corps avec ma voix. Besoin de parler, besoin de créer, c'est le titre de la bande-annonce qui est sortie il y a tout pile un an. Et voilà, j'ai comblé ces deux besoins grâce à mon podcast. Je ne savais pas ce que ça allait donner, je ne savais pas où j'allais. J'avais des idées, des listes de thèmes, des textes déjà écrits, des idées aussi d'enregistrement à plusieurs, par le besoin aussi que j'ai de partager l'histoire d'autres personnes. J'ai concrétisé un grand nombre des idées que j'avais. J'ai suivi exactement les règles du challenge que je m'étais fixé, c'est-à-dire sortir un podcast par mois et alterner entre un épisode solo et un épisode avec un ou une invitée. J'avais d'autres règles qui peuvent paraître futiles, mais je ne voulais absolument pas rentrer dans un moule. Je ne voulais pas reproduire ni copier. Le truc que je ne voulais pas faire, c'est le « Bonjour, j'espère que vous allez bien ». C'est une phrase que j'entends tout le temps dans une majorité de podcasts ou de vidéos de youtubeurs. Non, il était hors de question que je vous dise ça. Il n'y a pas qu'une seule manière d'introduire une vidéo ou un podcast. Et ça me semble évident que non, beaucoup de gens ne vont pas bien quand ils écoutent un podcast, et quand bien même on peut l'espérer. Et surtout, ça ne me ressemble pas de parler avec une voix enjouée et hyper dynamique. Je ne veux pas faire semblant. La première fois que je me suis écoutée après la première prise de ma bande-annonce, j'ai été choquée. Tellement c'était loin de ce que je consommais habituellement. Je me suis trouvée ennuyeuse, lente, monotone, ça dissonnait. Mais je ne pouvais pas faire autrement et ça a été difficile d'assumer un ton différent de ce que j'avais l'habitude d'entendre. Au bout d'un an, après 12 épisodes, on m'écrit souvent pour me dire que justement, on aime mon ton et ma voix. Pour certains, elle a une vertu apaisante, presque ASMR. On me dit que j'ai une voix pour ça, une voix pour le podcast, que c'est agréable et qu'on a envie d'écouter jusqu'au bout. Et ça, ça m'étonne toujours, car moi, qui parle peu dans la vie, on ne m'a jamais parlé de ma voix. Mais aussi, pour mon entourage, c'est une voix qu'ils ne connaissent pas. On ne me reconnaît pas, je n'ai pas cette voix dans la vie et en même temps, tant mieux. Ici, c'est un espace de création et d'interprétation. Les enregistrements sont dans un cadre où la place de la parole domine, où on sait qu'on est enregistré, et il n'est pas naturel de parler dans un micro, de partager ses écrits, de partager des anecdotes de vie de manière publique. Celui qui le fait est autant critiqué qu'admiré, car ce n'est pas naturel et il faut avoir la prétention de vouloir apporter quelque chose aux autres. Au bout d'un an, je n'ai toujours pas complètement répondu à la question de pourquoi j'ai besoin de faire ce podcast. J'ai eu des périodes où j'avais 1000 idées en tête, j'avais envie d'enregistrer 5 épisodes dans la même semaine, ou des périodes de gros doutes, où je me suis même dit « est-ce que je ne m'arrête pas là au bout d'un an ?» Je ne savais pas où j'allais parce que je ne voulais pas me brider à ne parler que d'un seul sujet. Souvent les podcasts, ils ont un thème prédominant. J'ai eu plusieurs idées de podcast. Je voulais parler de l'histoire des chansons françaises où je voulais parler de comédie musicale. Et ce sont des projets que j'ai abandonnés. Je voulais interviewer des artistes de comédie musicale, mais en commençant à préparer ce projet, je me suis rendu compte que je voulais aussi interviewer telle personne et telle autre qui n'avaient pas de lien avec la comédie musicale. Bref, je me sentais bridée dans toutes les idées que j'avais, alors je me suis dit que j'allais faire tout ce que je voulais, peu importe le thème. Parler de sujets qui me touchent moi, j'ai énormément douté du succès potentiel. Je me suis dit que des gens allaient tomber sur un épisode parce que le sujet lui plairait, mais qu'ils ne reviendraient certainement pas écouter un autre épisode, et que la mayonnaise serait difficile à prendre. Finalement, au bout d'un an, il y a des personnes qui sont là depuis le début, depuis le premier épisode sur Jeanne Chéral, et qui écoutent tout, ou presque. D'autres qui sont arrivées plus tard, mais qui écoutent aussi tout, ou presque. Et quand bien même, les sujets sont différents. Je ne savais pas moi-même que mon sujet de prédilection serait la musique et le spectacle, alors qu'en y réfléchissant, c'est évident. Je me suis rendu compte effectivement que j'avais beaucoup de plaisir à partager autour des artistes et de l'artistique, et c'est devenu le fil rouge du podcast. Mais en suivant ce fil rouge, pour garder mes auditeurs, ça me bridait également sur l'idée que j'avais de base, de parler de tout et de n'importe quoi. Alors doucement, je sors des épisodes qui parlent de spectacle, mais en faisant le lien avec des sujets sociétaux, comme l'épisode avec Laura, où la première partie parle de spectacle, mais la seconde parle de plein d'autres sujets qui me passionnent autant, comme la parentalité ou l'éducation d'un enfant aujourd'hui. Je garde donc ce fil rouge, mais je me permets des épisodes hors série où je parle complètement d'autre chose, comme le dernier sur les histoires d'amitié qui marquent nos vies. Et ça peut paraître très brouillon, mais c'est ma ligne de conduite et c'est ce qui me pose aussi problème. Comment vendre ce podcast puisque je suis inconnue et les auditeurs ne savent pas à l'avance quel sujet je vais aborder. Et c'est très difficile pour moi de définir en quelques mots de quoi parle mon podcast. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne façon de faire pour toucher le plus grand nombre, c'est pas limpide, mon projet il n'est pas clair, il n'est pas explicable facilement. Mais je n'ai pas envie de suivre ce qu'il doit être fait pour y arriver. Je préfère suivre mon instinct et faire ce que j'aime, et si ça arrive jusqu'à vous, c'est que c'est aussi une manière de fonctionner, même si c'est à petite échelle. Au début, j'étais focus sur les chiffres, mais au-delà des chiffres, ce sont des vraies personnes, c'est vous qui écoutez dans une de vos journées un épisode, et c'est ça qui compte. Et qu'il ne faut pas oublier. Je ne m'étais pas donné du tout d'objectif d'écoute, ni même d'objectif de réussite. Ce n'est pas un projet lucratif, je me laisse porter, et si ça me plaît, et si ça parle au moins à quelqu'un, le but est atteint pour moi. Et tant que je fais ça avec plaisir et que ça m'éclate, c'est juste génial de partager avec quiconque qui s'intéressera à mes podcasts. En fait, ce projet, c'était surtout un challenge personnel, et je ne savais pas à quel point ça allait pouvoir aller jusqu'à vous. Aujourd'hui, je souhaite garder ce fil rouge autour du spectacle vivant et de la musique, car ce sont les sujets qui me font le plus vibrer, et je prépare de nouveaux formats pour la deuxième saison. Je voulais vous confier quelque chose, toute bête. Cette semaine, j'ai assisté à un spectacle. J'ai travaillé pendant 2 jours dessus, montage technique, puis les artistes sont arrivés, on a fait les balances son, puis un filage complet du spectacle quelques heures avant que le public arrive. 20h, le spectacle commence, et nous on démonte juste après, alors je m'installe au fond de la salle en attendant le moment du démontage. Et je suis frappée par la beauté de ce que je vois. C'est un duo de la danse. Je crois que j'aime vraiment énormément voir de la danse, alors que je n'achète jamais de tickets pour en voir de moi-même, j'en vois toujours qu'à travers mon travail. Et je trouve ce duo très beau, donc, la musique, la lumière, leur performance, et je me rends compte à quel point c'est juste beau, un spectacle. C'est tout simple, mais je l'avais un peu oublié, pas quand je suis spectatrice, mais quand je travaille sur un spectacle. Parce que quand on est dans le théâtre depuis 9h du mat, qu'on a fini à 23h la veille, que toutes les semaines on est dans ces murs noirs sans fenêtres et qu'on voit des artistes arriver et repartir, voilà, moi je suis baignée là-dedans et ça n'a plus grand-chose d'exceptionnel. Et ce soir-là, voilà, j'attendais 21h que le spectacle soit fini pour qu'on démonte et qu'on recommence le lendemain, etc. Quand je le peux, j'assiste au spectacle que j'ai accueilli. Et là, devant moi, j'ai conscientisé que c'était là le moment du spectacle. Dans toute ma journée, on était arrivé à ce moment, ce pourquoi on avait travaillé, c'était ça, c'était cette heure-là qui comptait. Je l'ai vraiment conscientisé comme ça, ça faisait longtemps que je ne m'en étais plus rendu compte en fait. On avait travaillé pour ce moment et devant moi, je voyais toutes les têtes des spectateurs, un peu éclairées par la lumière qui se réverbait dans la salle. Et oui, je conscientise que chacune de ces personnes ont eu des journées différentes, n'ont pas du tout évolué dans cet univers de toute la journée comme moi. Ils viennent de passer les portes du théâtre, ils sont sortis de leur quotidien, ils sont sortis de leur maison, de leur travail, et ils sont là devant deux danseurs. Et ça m'a frappé à quel point c'est beau d'aller voir du beau. C'est tout con, mais il y avait des familles, des enfants, une petite fille devant moi qui s'est couchée sur le siège vide à côté d'elle en continuant de regarder le spectacle. Ça m'a fait un peu penser comme si elle était dans son canapé, mais non, elle était dans une salle de spectacle et elle regardait. Et j'ai trouvé ça beau. J'avais oublié ça, que le spectacle vivant, c'est aussi juste aller voir du vivant et du beau. J'ai pas forcément compris, ni cherché ce que ça voulait dire, ce que ça voulait raconter, leur pièce, mais leur performance était très belle à voir, l'énergie se transmettait du plateau à la salle, les gens ont ri, les artistes étaient généreux, il y a eu des moments de grâce, et c'est au moins ça qu'on cherche en assistant à du spectacle. Alors, si je peux continuer à donner envie d'aller voir du spectacle vivant à travers mon podcast, c'est toute la mission que je me donne pour cette deuxième saison. Aussi confidentiel soit ce podcast, j'ai été si surprise d'apprendre au cours de cette année que mon podcast avait pu faire acheter des exemplaires de Petit Pays, quand je parle du roman de Gaëlle Faye dans l'épisode 4, par exemple, ou alors que j'ai influencé à acheter des tickets de spectacle, impulser l'envie d'aller voir une comédie musicale, ou de sortir encore plus souvent au théâtre pour ceux qui étaient déjà habitués. Et avoir ce pouvoir-là, je ne m'y attendais, mais pas du tout. Alors que finalement, c'est aussi ça le but, si j'y réfléchis, en parlant d'artistes et de mes anecdotes. Ça donne envie d'avoir ses propres anecdotes. Et j'ai des idées pour continuer dans ce sens. J'ai envie, effectivement, de continuer à provoquer cette envie. Si on peut se le permettre, donnons-nous le temps d'aller voir du spectacle vivant et de vivre un moment pour soi. J'avais parlé sur Instagram de faire une rétrospective des spectacles que j'ai vus cette année. Alors je vais vous parler des meilleurs spectacles que j'ai eu la chance de voir en 2023. Pour moi aussi, mon podcast m'auto-influence dans l'envie d'en voir plus, de cultiver cette passion plus fortement encore. Je pense que j'ai vu plus de choses que si je n'avais pas eu le podcast et tous ces échanges avec vous. Donc, merci à vous, on s'engraine les uns les autres et c'est tant mieux. Avant de commencer ce bilan, je tiens à remercier justement toutes les personnes qui m'écoutent, que ce soit un passage éclair sur un épisode ou ceux qui écoutent toute la série de podcasts que je produis. Merci beaucoup, beaucoup. Sans écoute, ça n'a aucun sens. Alors je suis ravie que le podcast fasse son chemin jusqu'à vous. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me donner leur retour, de me raconter leurs histoires, de m'écrire quelques lignes. C'est hyper précieux pour moi, histoire que ce podcast soit un dialogue et pas uniquement un partage à sens unique. Je remercie aussi ceux qui ne me donnent pas leur retour. Moi-même, avant d'avoir mon propre podcast, je n'écrivais jamais aux podcasteurs que j'écoutais et je ne likais rien, je les suivais même pas sur Insta. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'ils soient écoutés et pas forcément les réseaux sociaux. Je suis autant ravie que surprise que ça plaise autant. Le but de ce partage, c'est évidemment, comme tout podcast, de créer du lien, des réflexions sur soi-même, des questionnements et de divertir. Je suis ravie de participer à ça. Merci mille fois. Et le retour qui me touche le plus, car c'était l'enjeu numéro 1, c'est ce que j'essayais d'esquisser dans ma bande-annonce quand je disais « Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas artiste, je ne suis pas comédienne. » C'était aussi pour dire que j'étais quelqu'un comme tout le monde et qu'on pouvait se donner la parole et juste parler honnêtement. Et pour moi, ce qui me touche le plus, c'est quand on me dit qu'on sent à quel point je suis sincère et honnête dans ce que je peux raconter. Un autre de mes challenges, effectivement, c'était de raconter des histoires sans fioritures, sans embellir la réalité, et de tenter d'exprimer par des mots les émotions. J'ai mon chat qui pleure à la porte, je vais devoir lui ouvrir. J'enregistre pas dans la pièce où je suis d'habitude.
Tu veux quoi? Tu veux sortir? Viens.
Pour tout vous dire, je suis même dans mon lit, c'est la première fois que j'enregistre dans mon lit parce que je n'ai pas la pièce où j'enregistre d'habitude et les autres pièces de ma maison résonnent, donc j'ai trouvé le seul moyen que j'avais, c'était d'enregistrer dans ma chambre. Donc oui, mon challenge, c'était de raconter des histoires sans embellir la réalité et de tenter d'exprimer par des mots les émotions. Et d'après mon conjoint, je suis addicte aux émotions. C'est ce qui fait certainement que j'ai besoin autant de voir des spectacles, de lire des histoires, d'écouter des témoignages, parler d'émotions, quelles qu'elles soient. Je crois que c'est ce que je cherche au fond dans mon podcast. Allez, je vous parle des spectacles que j'ai vus cette année. J'ai un top 2 vraiment de deux spectacles qui m'ont bouleversée profondément, qui rentrent dans les meilleurs spectacles que j'ai vus dans toute ma vie. Mais cette année, j'ai vu aussi beaucoup de spectacles géniaux et je vais vous parler de ceux qui m'ont marqué sans que ce soit dans un ordre de préférence. J'ai enfin pu assister à une nouvelle pièce de Joël Pommera. Si vous voyez dans vos programmes n'importe quelle pièce de Joël Pommera, allez-y. C'est du très haut niveau de performance de comédien et aussi des prouesses techniques. C'est contemporain, rythmé, moderne, actuel, vraiment à l'antipode du théâtre classique. J'ai vu pour ma part Conte et légende. Le titre n'est pas très parlant, je trouve qu'il correspond mal à ce qu'on assiste, mais la pièce elle est dingue. Plusieurs sujets s'entremêlent, l'adolescence et la présence de robots dans la vie familiale. Donc on est dans un futur proche quoi. Chez moi, on est très fan de séries ou de films où il y a des robots, humanoïdes ou non, qui remplacent l'homme. Et c'est un sujet qui nous touche, des séries comme Humans, où pour le coup, comme dans Conte et légende, c'est des robots humanoïdes, ou une série comme Black Mirror. Si vous n'allez jamais au théâtre et que vous voulez découvrir ce que c'est que le spectacle vivant, mais allez voir Contes et légendes, vous serez aussi transporté que dans votre canapé devant une série. La première scène marque beaucoup les gens, on en a beaucoup parlé entre collègues. Ce sont des ados qui invectivent une jeune fille qui est une vraie personne ou un robot, on ne sait pas, sur un trottoir. Et les joutes verbales sont impressionnantes. D'emblée, on est sur du vocabulaire adolescent qu'en tant qu'adulte, souvent, on ne comprend plus, mais aussi sur du harcèlement de rue. Aussi, il y a une scène où on apprend aux adolescents à devenir de vrais bonhommes virils, où on inculque la masculinité et à séparer son côté féminin de soi en tant que jeune garçon, où forcément, il y en a un qui ne se retrouve pas dans cette masculinité exacerbée et devient un problème dans le groupe. Voilà, ça c'est une scène assez marquante. Beaucoup de scènes comme ça sur l'éducation des enfants, des jeunes garçons, et notamment l'un des principaux sujets, la présence de compagnons artificiels robotiques. Et il y a une scène terrible d'une maman de la famille qui va bientôt mourir, elle le sait, et en fait qui fait la liste des choses qu'elle souhaite que le robot fasse à sa place dans la maison quand elle ne sera plus de ce monde. Et d'autres choses où elle ne veut pas être remplacée. Et c'est assez comique car le papa, lui, trouve impossible de le faire à la place de sa femme. Et forcément, c'est des trucs tout cons. Je sais plus exactement, mais imaginons, elle lui disait par exemple « Bah, je voudrais que ce soit toi qui aille coucher les enfants le soir et pas le robot. » Et l'homme, il est ahuri, mais non, jamais j'aurai le temps, je peux pas faire ça, c'est impossible. Enfin, je sais plus exactement les dialogues, mais c'est extrêmement bien senti, extrêmement bien trouvé. Et c'est drôle, tant ça touche au réel et à des scènes et des vies de famille qu'on peut voir autour de nous, où ça parle de la place de la femme dans la famille, ce qu'elle fait pour ses enfants. Aujourd'hui ça change, mais voilà, la place du papa dans les dernières générations, voilà, c'était pas lui qui s'occupait de l'éducation ou de faire à manger et tout ça. Donc voilà, ça parle de ça, et c'est aussi drôle que ça glace, en fait. Et on parle aussi du robot. Peut-il mourir, lui ? On parle de la relation qu'entretient ces jeunes avec cette chose qui n'est pas consciente. Voilà, on peut faire le parallèle avec plein de choses, hein, avec tout ce qui est virtuel. Et voilà, ça parle de beaucoup de sujets. C'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait. Et moi, j'ai été très émue, car je n'avais rien remarqué, mais tous les rôles sont interprétés par des comédiennes. Et il y a beaucoup de rôles masculins. Je crois qu'il y a un comédien, mais tous les autres rôles, donc il y a vraiment une bande entière d'ados masculins, donc ils ne sont joués que par des femmes. Et ça, c'est un talent de Joël Pommerat et de son équipe d'assistants à la mise en scène et au jeu. Le jeu d'acteur est extrêmement précis, et pendant tout le spectacle, on a vraiment l'impression de voir des ados sur scène. La gestuelle, la voix, les insultes, l'habillement, c'est un truc de dingue. Je pensais que c'était des vrais ados qui avaient été castés pour le spectacle, vraiment. Mais non, ce sont des comédiennes, je sais plus, de 25 ans minimum. Il y avait un bord plateau ensuite, après la représentation, et elles avaient parlé de ça. Qu'elles n'étaient pas du tout adolescentes, et que ça faisait longtemps qu'elles avaient quitté cette période de leur vie, et donc il avait fallu retrouver voilà, toute cette gestuelle, la nonchalance, le verbe. Et c'est vrai que Joël Pommerat, il travaille avec beaucoup de comédiennes qui sont castées selon leur taille, ça c'est ce qu'elles expliquaient, les comédiennes, car dans ses spectacles, c'est souvent des rôles de jeunes enfants. Voilà, il a réadapté Le Petit Chaperon Rouge, moi j'avais vu Cendrillon. Et en fait, c'est pareil, on a l'impression de voir des enfants sur scène et ce sont des comédiennes adultes. C'est dingue. Donc, c'est des comédiennes qui doivent avoir une taille maximum, je sais plus quelle taille. Et franchement, l'illusion, elle est folle. Donc, les saluts, quand je les ai toutes vues retirer leurs perruques de garçons et que j'ai vu que ce n'était que des femmes, mais ça m'a tiré les larmes. Et j'ai vu ce spectacle avant qu'il y ait tout le progrès sur les IA qu'on a eu cette année. Il y a notamment dans le spectacle un robot star. Et dernièrement, la semaine dernière, j'ai lu qu'il y a une influenceuse sur Internet qui n'existe pas en chair et en os et qui fait gagner énormément d'argent. Et ça rappelle complètement le spectacle. Et je pense que revoir ce spectacle avec aujourd'hui la notion d'IA en plus, ça doit créer encore d'autres liens hyper actuels sur notre monde. En danse, j'ai vu des super spectacles, Gloria de José Montalvo, où il y avait d'ailleurs plein d'ados dans la salle. Lorsque j'ai vu le spectacle, ils ont adoré, pleuré. C'était super beau de voir que des ados pouvaient être touchés par de la danse. Après, ce n'était pas que de la danse pure, parce qu'il y avait aussi dans le spectacle chaque danseur qui exprimait au micro son rapport à la danse, son histoire. Il y en avait certains qui avaient des histoires où ils s'étaient blessés, ou alors des souvenirs d'enfance ou d'ado où on leur avait dit qu'ils ne feraient jamais rien, qu'ils ne monteraient jamais sur une scène. Et hop, ça partait en solo, en performance scénique. Et je pense que ça, c'était très parlant pour les adolescents et pour n'importe qui, hein, de toute façon. Et je me suis prise une claque. Enfin, le spectacle était mais plein d'allégresse, d'énergie et en même temps d'une émotion folle. Donc ça, je me suis pris une belle claque avec ce spectacle. En danse aussi, j'ai travaillé sur un spectacle de Benjamin Millepied, son Roméo et Juliette, avec trois castes différents pour interpréter Roméo et Juliette. Parce que dans ce spectacle, on ne sait jamais ce qu'on va voir. On peut voir un couple homosexuel, un couple lesbien ou un couple hétéro, pour jouer cette histoire d'amour, que a priori c'est un spectacle qui avait fait polémique, et franchement, mais c'était fabuleux. Moi j'ai vu, je n'ai assisté que aux répètes, mais voilà, c'était des filages quand même très précis, donc j'ai vu un couple homosexuel et un couple hétérosexuel. Voilà, j'ai eu la chance en quelques jours de pouvoir voir deux castes. Et voilà, j'ai pas pu voir vraiment le spectacle parce que je devais être en coulisses, mais dorénavant, je vais sauter sur l'occasion dès que je verrai des spectacles de Benjamin Pied dans ma région, et je pense que je peux vous conseiller de faire pareil. Roméo et Juliette, c'était à la fois filmé et diffusé sur un écran, et à la fois du spectacle vivant, donc on pouvait regarder autant les danseurs sur le plateau que les écrans qui apportaient une autre vision de la scène. Par exemple, il y avait une caméra qui était au-dessus d'eux, donc on voyait les chorégraphies d'une autre manière. Et aussi une idée géniale, c'est qu'il y avait des scènes uniquement filmées, donc il n'y avait plus rien sur scène, mais un cadreur en direct suivait les artistes et ils allaient danser ailleurs dans le théâtre que sur le plateau. Donc, en tant que spectateur, tu es assis et tu sais que derrière toi dans le hall, parce que tu reconnais très bien où ils sont, y a des danseurs en direct et je trouvais ça mais génial. Ils allaient aussi dans les dessous pour la mort de Tybalt, dans les couloirs du théâtre. Et en fait, en technique, nous on devait préparer avant que la scène arrive tout ce qui était éclairage, câbles, quelques accessoires et tout ça. Hop, il tournait la scène, il s'en allait, et après la scène, tout rangé, comme si de rien n'était. Et voilà, vu que tout était en direct, fallait le faire une fois que le spectateur était rentré dans la salle, et fallait tout retirer avant que le spectateur sorte. Donc voilà, franchement, c'était fabuleux, autant en coulisses que d'avoir vu les répètes. Il y a un autre spectacle que malheureusement, je n'ai vu que des coulisses aussi, car je devais sécuriser un acteur lors d'une cascade, donc je ne pouvais pas être en salle pour vraiment bien le voir, mais pour autant, je vous conseille vivement Blockbuster du collectif mensuel. Blockbuster, c'est du jamais vu au théâtre. Des comédiens sur scène doublent les voix des acteurs d'un film qui est diffusé sur un écran pendant le spectacle. Mais ce n'est pas tout, ils jouent intégralement en live l'ambiance musicale du film, ils réalisent tous les bruitages en direct, les pas sur les graviers, les dérapages de voitures, les serrures, tout. Et des coulisses, le spectacle était grandiose de les voir faire les bruitages et la musique. Par contre, j'entendais assez mal le texte, mais très vite, j'ai compris que ce spectacle allait bien au-delà de cette prouesse technique. Le film diffusé est une parodie reprenant de nombreux plans de films hollywoodiens avec des personnages délirants et des situations comiques. Mais derrière l'humour, le concept va encore plus loin. Le message du spectacle est éblouissant. Le film dénonce et nous parle de notre monde et des dérives de la finance, la guerre des classes, les grandes inégalités sociales, la censure jusqu'à la rébellion et la révolte populaire à la fin. Et je ne m'attendais pas à ça. Au début, je pensais vraiment que c'était un spectacle comique et parodique, quoi. Et en fait, il y avait un vrai discours engagé. Et je m'attendais pas à ça. Et c'est une grande performance. Vous avez peut-être eu la chance de le voir au Festival d'Avignon cet été. Sinon, s'il passe par chez vous, vraiment n'hésitez pas. C'est à partir de 13-14 ans quand même pour comprendre l'histoire. Et vous en prendrez plein les oreilles, les yeux, la tête, et vous verrez, vous vivrez un grand moment de communion autant avec le public qu'avec les artistes, mais je peux pas en dire plus. Et c'est quelque chose que j'ai vu vraiment évoluer cette année, où tout ce qui est doublage, voix off, on en parle beaucoup plus, c'est un métier qui est mis en lumière en ce moment, et bah là pour le coup c'est vraiment un spectacle où vous assistez en direct à du doublage, des bruitages. Et c'est extraordinaire à voir, hein, parce qu'ils peuvent pas se louper. Hein. S'ils loupent une réplique, le film il continue à tourner. Hein, donc c'est du one shot.
Christine Lagarde.
Bon, non, c'est pas possible. Moi, je dirais plutôt Claude Lelouch.
Et que dites-vous de Christophe Lambert ?
Christian Lacroix !
En parlant de musique, j'ai pu assister au dernier West Side Story présenté au Châtelet, à Paris. Incroyable de voir un spectacle de cette qualité et incroyable d'entendre cette musique jouée en live dans le théâtre. C'était un super moment. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est très peu accessible parce que les prix sont exorbitant. Il y avait une certaine moyenne en termes de classe dans le public, social, je parle. Voilà, faut vraiment pouvoir se le permettre pour assister à un spectacle au Châtelet. Et c'est dommage pour moi parce que la programmation vire complètement que sur de la comédie musicale, donc je pense qu'à partir de maintenant, je vais beaucoup avoir envie d'aller voir les spectacles du Châtelet. Mais ça va me coûter cher. C'est des choix à faire. Et le soir même, j'ai assisté à un spectacle tout autre, bien plus accessible, très intimiste, dans un tout petit écrin parisien, où une partie des fonds était reversée au planning familial pour les violences faites aux femmes. C'est le nouveau spectacle de Stéphane Corbin, Elle, donc c'est Elle au pluriel, un spectacle pour faire entendre les voix des femmes. Des chansons originales, magistrales, interprétées par 5 femmes. Je voulais plus que tout revoir sur scène Camille Nicolas, après avoir furtivement travaillé avec elle sur les parapluies de Cherbourg, où j'étais tombée raide dingue de cette artiste. Elle fait partie des voix de ce spectacle, ainsi que Marion Préité, que je n'avais encore jamais eu la chance de voir, une artiste très intense sur scène. Également Nouritza Emmanuelan, Alix Loeffler et Marianne Favreau. Elles sont toutes fabuleuses, et surtout le spectacle est super bien mis en scène. Moi je pensais vraiment voir un concert en fait, et non, c'est vraiment du théâtre musical quoi. Et les textes sont aussi drôles que touchants, percutants. Ça, c'est le talent de Stéphane Corbin, qui est également sur scène et qui m'avait déjà bouleversée sur son premier spectacle contre l'homophobie. Je n'étais pas à 100% convaincue, un projet sur les femmes. Et en fait, mais c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien pensé. Et ça fait du bien à nous, les femmes, d'entendre ces textes, mais on sait tout ça, on le vit au quotidien, donc il faut aussi que les hommes viennent entendre ces textes. Pendant le spectacle, je regardais les quelques hommes de l'assemblée pour voir leur réaction, mais de toute façon, s'ils sont là, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils soient des hommes ouverts d'esprit, bienveillants et féministes pour l'égalité, quoi. S'ils se retrouvent dans cette salle, il y a peu de chances que ce soit des gros masculinistes. Donc ça, c'est un problème, entre guillemets, aussi du monde du spectacle ou même du podcast. C'est qu'on essaie de parler de sujets et de faire changer les mentalités. Mais de toute façon, ils sont déjà validés par la plupart des gens qui vont payer pour voir ça. Enfin, ils vont payer pour voir ce pourquoi ils sont déjà en accord. Mais voilà, il faut espérer que ces œuvres fassent leur bout de chemin et éveillent les esprits de ceux qui n'étaient pas déjà totalement convaincus.
Dédicace aux femmes sans enfants, aux femmes qui ne veulent pas d'enfants, aux femmes qui ont perdu leur enfant mais qui restent des mamans, aux femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont en parcours FIV, sous traitement hormonal, en attente d'un don d'ovocyte ou d'une insémination artificielle, aux femmes diagnostiquées stériles ou en parcours adoption, aux femmes avec enfants. Et aux femmes à barbe, mais ça n'a rien à voir.
J'ai vu aussi Le Soldat Rose, très heureuse de revoir une nouvelle adaptation de cette histoire pour les grands et les petits. J'ai adoré revoir Fanny Fourquet sur scène, dans plusieurs rôles différents, ça faisait trop du bien de la revoir. J'ai découvert de nouveaux artistes, le cast il est vraiment très bon. Le spectacle il part en tournée, là, à partir de décembre, franchement, c'est une superbe sortie en famille. C'est très touchant. Allez-y avec vos enfants, vous allez vous régaler. Regardez si le spectacle passe par chez vous.
Les garçons n'aiment pas la couleur de danseuse. Et les filles disent quoi devant ma mitrailleuse.
J'ai vu aussi 2 spectacles de cirque cette année, et notamment de Clément Dazin, un des premiers artistes de cirque qui m'a fait découvrir le cirque contemporain il y a plus de 10 ans, et je ne l'avais jamais revu sur scène, ni jamais revu aucun de ses spectacles alors qu'il en a fait beaucoup en 10 ans. Et c'était une superbe surprise de le rencontrer et de voir enfin 2 de ses pièces, c'était Angst et Cosmos. Donc voilà, cette année j'ai vu très peu de cirque alors que d'habitude je vois plus que ça. Mais voilà, au moins ce que j'ai vu c'était Clément Dazin et c'était la compagnie La Main de l'Homme. J'ai revu également, après plus de 10 ans aussi, Claire Joseph et Sky. Je parle dans l'épisode 6 Et juste après que l'épisode soit sorti, on a discuté avec Claire. Et elle m'a dit, mais où est-ce que tu habites? On a quelques dates ici, là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle venait, Claire et Sky, à côté de chez moi. Mais vraiment, on pouvait pas faire plus près. Alors que je ne les avais pas revus depuis 10 ans. Donc ça, c'était un truc de fou. C'était vraiment une coïncidence. Et en plus de ça, il y avait une autre date près de chez moi, plus tard dans l'année. Donc cette année, après 10 ans sans les avoir vus, je les ai vus deux fois avec leur groupe Pur Sang, parce qu'elles ont formé un groupe toutes les deux. Et voilà, c'est deux artistes que j'admire et que j'aime, que je suis depuis mon adolescence. Et c'était génial et si réconfortant pour moi d'entendre leur voix en live. Sky, je l'avais vue en concert une fois, et Claire, je ne l'avais même jamais vraiment entendue en live. Donc c'était une superbe coïncidence, cette histoire de podcast où je parle d'elle et au final où on peut se revoir quelques mois après et voilà, et enfin les revoir sur scène. Musicalement, ça a été une petite année pour moi. J'ai écouté peu de musique déjà et j'ai pas été à beaucoup de concerts. J'ai plus vu de pièces et de comédies musicales que d'habitude, donc je suis aussi comblée. En concert, j'ai revu des artistes que j'avais déjà beaucoup vus. Je me renouvelle peu. Par exemple, j'ai revu La Femme et Patrice. C'est des groupes que j'ai déjà vus plein de fois en concert, donc ça, j'étais trop heureuse. Voilà, La Femme. Je les ai vus sur leur tournée Teatro Lucido, donc je suis trop contente. Patrice sur sa dernière tournée. Mais mon chat n'arrête pas de faire le tour. Faut encore que je lui ouvre la porte.
Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Tu sais pas où aller là? Allez, va promener.
Voilà, encore une interruption de mon chat. D'habitude, je suis dans une pièce où il ne peut pas me voir, donc il peut pas réclamer de rentrer ou sortir de la maison. D'habitude, j'enlève tous ces petits moments d'interruption, mais là, je vais les laisser dans le montage pour l'anniversaire. Je vous laisse les coulisses. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai revu La Femme et Patrice. Oh, mais c'est pas vrai! Donc je disais, j'ai revu La Femme et Patrice, et j'ai été à quelques concerts quand même, où pour le coup ça a été des premières fois, j'ai vu Célassou, j'étais super contente de enfin la voir sur scène, Matmata, Stéphane Escher, et j'aurais dû voir un spectacle musical de Mathias Malzieu et Daria Nelson, qui a été annulé, j'étais dégoûtée, parce que ce spectacle aurait certainement pu faire partie de mon top, et j'aurais pu vous en parler aujourd'hui, mais je n'ai pas pu y assister parce que le théâtre faisait grève, et j'ai failli faire des kilomètres pour aller voir le spectacle dans une autre ville, mais il coûtait le double du prix fixé dans le théâtre où je devais aller le voir. Et ça, j'aimerais bien parler aussi du prix des billets de spectacle, parce qu'il y a aussi des choses très accessibles. Donc ça, j'aimerais bien faire la pub, parce que parfois, on a l'impression qu'un spectacle va être cher, et en fait, c'est hyper accessible, ou même des fois, il y a des choses gratuites, et on le sait pas. Et voilà, et il y a aussi des choses qui sont plus chères. Je sais pas comment en parler. Ça fait partie de la transparence que j'aimerais apporter aussi en parlant de spectacle. Mais selon où vous êtes, c'est pas les mêmes prix. Donc je sais pas encore comment m'y prendre pour parler d'argent. Parce que c'est facile de dire sortez voir du théâtre sans parler du coût que ça engendre. J'ai remarqué que dans beaucoup de mes podcasts de cette année, dans quasiment tous les épisodes, je parle d'argent. Du fait que ça me coûte, que j'hésite par rapport à mon porte-monnaie. Je ramène toujours le sujet sur l'argent. J'ai un problème avec ça ou j'ai un truc... avec ça, et aujourd'hui, d'autant plus, je pense que oui, les salles, elles ont des difficultés à se remplir parce qu'on peut moins ou plus se le permettre. Donc c'est quand même un sujet. J'aimerais bien mettre en place, peut-être, quand je parle sur les réseaux de spectacles, de mettre le prix que ça coûte. Pour terminer, enfin, en top 2, il y a le spectacle Smile. C'est une pièce interprétée par 3 comédiens. Je suis une grande admiratrice du travail de comédien d'Alexandre Fetrouni, que j'ai l'habitude de voir dans des comédies musicales, mais j'essaie de voir tous ses projets confondus, tellement j'aime cet artiste. Et c'est une pièce qu'il m'a fait découvrir cette année, Smile. C'est l'histoire de Charlie avant qu'il devienne Chaplin. L'intrigue est inspirée de quelques faits tirés de la réalité, notamment une rencontre avec une femme qui, dans cette fiction, va bouleverser sa vie, mais pour le meilleur ou pour le pire. À chacun d'en faire son interprétation. À nouveau, cette pièce est du jamais vu parce que l'ingéniosité est visuelle. Le spectacle est en noir et blanc, le décor, les lumières, jusqu'à la peau, les dents et les gencives des acteurs. Avec des effets scéniques et un décor très simple, les comédiens nous transportent en 1910 dans un pub où une même scène va se dérouler devant nos yeux à plusieurs reprises, selon les différents points de vue des personnages jusqu'au dénouement. Ce spectacle m'a énormément émue. Je suis sortie de la salle assez sonnée, avec une envie de pleurer énorme. J'avais déjà pleuré sur le final, mais dès que j'y repensais, en quittant la salle, j'avais une énorme boule au creux de moi et les larmes au bord des yeux. Et j'ai mis beaucoup de temps à sortir de cet état, à passer à autre chose et à oublier les personnages. Et je le disais tout à l'heure, c'est ce qui me plaît en allant voir des spectacles. Vivre de grandes émotions et que ça me laisse des traces émotionnellement. Parce que c'est presque frustrant, le spectacle vivant. Il nous impose de vivre pleinement le moment présent et ensuite, il ne nous reste rien de palpable, on passe très vite à la nostalgie, le spectacle est fini et on ne pourra pas le revoir, à moins d'y retourner bien sûr, mais ça reste un moment éphémère, même si on le revoit 5, 10, 20 fois, quand c'est fini, c'est fini. Et Smile, c'est une pièce qui fait un carton. Et je sais que parfois, on entend tellement parler d'une pièce qu'on n'a pas envie d'aller la voir. Moi, j'étais uniquement motivée par le fait de voir Alexandre Fitrouni dans la peau de Chaplin. Il y a plusieurs distributions. Moi, j'ai vu Ophélie Lehmann, que j'ai adoré, et Dan Ménache, qui est également le co-auteur de la pièce. Et je vous conseille la pièce, peu importe les interprètes, de toute façon, car c'est un bijou de mise en scène et de poésie, et je pense que ça continuera à être prolongé face à ce grand succès. Et si tu l'as vu, tu en penses quoi, toi, de la fin ? Quel choix de vie aurais-tu fait, toi, à la place de Chaplin ? Parce que je pense que c'est ce choix cornélien qu'il fait qui m'a bouleversée et beaucoup questionnée.
J'ai trouvé une excuse !
Une excuse ?
Oui !
Ne sortez surtout pas ! Ce rendez-vous va changer
votre... Oh, mettez-vous, espèce d'idiot, pas ça, vous allez tout ruiner.
Ouvrez-moi.
Non, non, je ne peux pas.
Comment ça, vous ne pouvez pas?
Non. Désolé.
Mais enfin, je vous vois, là.
C'est pas moi.
Mais ça ne veut pas rire, laissez-moi sortir.
Allez vous asseoir, je vous en conjure, vous ne le regretterez pas. Je suis à vous dans une minute.
Bon, très bien. Mais détachez-vous.
Bien joué. Et maintenant, retournez-y, je compte sur vous, ma vie en dépend.
Bonne chance.
Enfin, en top 1, c'est Starmania, donc forcément une comédie musicale. Enfin là, c'est même un opéra rock. Voilà, Starmania, ça m'a énormément marqué, jusqu'à même m'obséder. J'ai assisté à 2 représentations. Merci Sam pour l'invite et merci papa pour le cadeau. Ça n'a pas de prix, tellement ce spectacle est incroyable. Je n'étais pas prête à me reprendre dans la figure cette histoire tragique. Je l'ai vue en juin dernier et au moment où j'allais voir Starmania, je venais de vivre plein de choses. C'était une période très chargée qui s'arrêtait juste le week-end avant d'aller voir Starmania. Et je savais qu'au moment où j'allais y assister, tout ça se serait terminé et que ce serait le moment où je pourrais relâcher la pression, profiter pleinement de Starmania en ayant l'esprit libre et vide. Et en fait, au final, le spectacle m'a rempli la tête à nouveau parce qu'il traite de beaucoup de sujets qui m'ont touchée, parce que musicalement, Starmania m'obsède. Je ne saurais dire pourquoi. J'ai des périodes où je n'ai envie d'écouter que ça et de chanter et danser que Starmania. Donc voir le spectacle a remis une pièce dans la machine, mais en ayant en plus la nouvelle mise en scène de Thomas Joly en tête. Et pendant longtemps, quand je revisualisais certains tableaux et quand je me replongeais dans les souvenirs du spectacle, j'avais systématiquement les larmes aux yeux sans que je pense forcément à un moment triste du spectacle, peu importe la scène. Ça réactivait directement mes émotions, mais comme jamais quoi. Enfin, j'ai jamais ressenti ça pour un spectacle. C'est C'est énorme, c'est très très puissant. Je disais que le spectacle était éphémère, mais là, il y a quelque chose qui reste. C'est assez terrible. Et franchement, c'est grandiose. Je trouve pas les mots pour décrire, en fait, ce que c'est que d'aller voir cette adaptation de Starmania. Le mot que je trouve le plus approprié, c'est spectaculaire. Donc c'est quand même ce qu'on demande à un spectacle. Mais pour le coup, c'est vraiment spectaculaire. Autant dans son propos que les lumières, que les interprétations, que la technique. C'est que de la technique. Et j'ai été très heureuse de partager ça avec mon conjoint. On aime beaucoup le répertoire de France Gall et Michel Berger. Et lui aussi a une histoire avec Starmania personnelle. Donc c'était génial de vivre ça ensemble, même si j'avais une longueur d'avance sur lui parce que je l'avais vu une première fois la veille, sans lui. Mais je crois que j'ai autant aimé le spectacle que l'après-spectacle, où on a confronté nos opinions sur ce que ça raconte, sur les thèmes, les personnages. Et c'était génial de pouvoir en parler avec lui et de vivre ça ensemble. C'est vraiment un ovni de spectacle. J'ai envie de le voir et de le revoir et de le re-revoir. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Enfin, ça m'arrive pas, ça. Enfin, si le spectacle pouvait rester dans un théâtre, à domicile, je crois que j'irais au moins une fois par an et je me referais un shoot de Starmania et que ça dure comme ça des années et des années. En fait, j'ai du mal à me dire que peut-être que Starmania, ça va se terminer et qu'on pourra plus aller le voir, quoi. C'est bizarre, hein. Donc très honnêtement, je pense avoir vu cette année le meilleur spectacle de ma vie. Je sais pas si je verrai une œuvre qui me touchera autant et qui soit aussi grandiose, autant émotionnellement, tout ce qu'on se prend dans la figure, visuellement aussi. Si vous voulez savoir plus précisément mon avis sur Starmania et de quoi ça parle aussi, si vous ne connaissez pas l'histoire de ce spectacle, je suis en train d'écrire un épisode dessus qui sortira dans la deuxième saison. Et puis je vais retourner le voir une troisième fois en janvier. Donc je suis en train d'écrire mon avis, tout ce qui m'a traversé les premières fois avant de le revoir en janvier. Comme ça, je note tout ce que j'ai ressenti. Et aussi, j'ai envie d'expliquer les thèmes et ce qui est raconté dans ce spectacle, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ensuite, j'écrirai une deuxième partie. Je compléterai l'épisode une fois que j'aurai été voir la troisième représentation. Je ne sais pas quand il sortira. Je dis souvent que je pleure dans mes podcasts. Je parle beaucoup de mes émotions et des larmes que je peux verser. Pour autant, vraiment, je pleure pas souvent. Mais j'ai des larmes qui ont coulé quand j'ai cliqué pour me racheter des places pour Starmania. Et là, même de le dire, je suis émue et j'ai envie de pleurer. Donc il y a vraiment un truc énorme et fou avec ce spectacle. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. Et je ne peux que en consacrer un épisode entier. Et pas seulement vous en parler là dans cet épisode anniversaire. Je voulais aussi faire un bilan des podcasts que j'ai écoutés cette année, mais je me rends compte que j'en écoute tellement qu'il faudrait que je fasse une vraie liste et j'ai pas le temps de le faire et cet épisode est déjà très long. Le fait d'avoir mon podcast m'a permis de découvrir beaucoup de podcasts indés, beaucoup de jeunes projets que j'ai vu grandir. Et avant d'avoir mon podcast, je galérais à trouver des contenus. Maintenant, j'en ai énormément. Et justement, je me retrouve bien plus dans des projets moins connus, avec des tons différents, justement, ce qui m'encourage encore plus de ne pas faire des choses hyper standardisées ou qui sont hyper médiatisées, de pas faire comme eux. Et voilà, je me retrouve bien plus dans des projets moins connus. Et même aujourd'hui, j'écoute même très peu de podcasteurs très connus, alors qu'avant, j'écoutais tous les épisodes de gens qui en font leur métier, ou bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui font des podcasts et tout, mais moi, j'écoute pas trop ça, je préfère écouter des podcasts indés qui sont autant intéressants. Je découvre encore et encore des podcasts et des créateurs, et très peu en vivent, mais le font par passion, et ces podcasts-là, j'essaie d'en faire plutôt la pub, surtout sur Instagram. Après, si ça vous intéresse que je vous parle de podcasts, il y aura peut-être un épisode là-dessus. Si mon podcast m'a fait aller encore plus au théâtre, j'ai aussi encore plus écouté de podcasts. Donc bravo à tous les créateurs, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'écoutent aussi. Cette année, le vent a tourné, l'audio et le mot podcast est vraiment rentré. Voilà, on l'entend partout. Je vois des affiches dans la rue de pubs pour des podcasts et tout ça. Donc ça rentre vraiment dans le quotidien de beaucoup de personnes. Et c'est super. Merci encore pour cette première année et à bientôt.